Business présente.
Maintenant, la vraie question, c'est de mesurer l'ampleur du retournement.
On est dans une situation économique qui est plutôt favorable. On n'ose pas le dire, parce que si jamais on dit ça, on passe pour...
D'accord sur rien avec ce que je viens d'entendre.
Ça tombe bien. On veut du débat.
Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good evening, business.
Ça tombe bien parce qu'il va y en avoir du débat encore ce soir. Bonsoir à toutes et à tous, 18h sur BFM Business. C'est l'heure de Good Evening Business avec Audrey Tcherkov, bien sûr, comme tous les soirs. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume et bonsoir à tous.
On a des marchés un petit peu en stand-by ce soir parce que ça arrive une fois de temps en temps. On entre dans une grande séquence banque centrale et c'est la Fed qui va parler tout à l'heure à 20h. Donc tout le monde se tait. Et on attend. On va aller à Euronext, bien sûr, dans un instant.
Et de son côté, la Commission de Bruxelles a commencé à faire quelques propositions pour soutenir la transition énergétique à l'échelle européenne. Alors, on va écouter tout à l'heure Ursula von der Leyen. Oui. Sauf qu'il n'y a pas, à ce stade, de véritable réponse à l'IRA américaine. On en parle tout à l'heure à 19h10 avec la représentante à Paris de la Commission européenne.
Un petit peu sur notre fin ce soir encore. Et puis, on oublie pas les retraites, évidemment. Oui. Hein. Parce que c'est le président de la CFE-CGC, François Omrel, qui sera avec nous pour en parler dans 10 minutes. Et puis au milieu de tout ça, ça passe un peu à l'as, mais les nouvelles règles de l'assurance chômage sont entrées en vigueur ce mardi. Et on verra ça avec lui. On verra beaucoup de choses d'ailleurs, parce que vous le savez, on est ensemble jusqu'à 20h sur BFM Business.
C'est parti.
Good evening business, le journal.
Donc oui, petit détour par Euronext. Bonsoir Stéphane Pedrazzi. C'est le garde à vous sur les marchés, parce que la réserve fédérale Bonsoir. Américaine va parler à 20h. Et elle devrait encore nous annoncer une hausse de taux d'intérêt, Stéphane. Hein.
Alors, effectivement, en ce qui concerne la hausse de taux, relativement peu de suspense, Guillaume. Le marché anticipe très largement un relèvement de 25 points de base. Ce sera en principe la 8e hausse de taux consécutive. C'est considérable. Il y a un an, on était à 0,25% sur les taux américains. On devrait ce soir atteindre 4,75% après cette réunion. Remontée spectaculaire. La vraie question, le vrai suspense, concerne en fait les perspectives. Est-ce que la Fed, oui ou non, est désormais proche de la fin de son cycle de hausse des taux? C'est en tout cas le message que le marché voudrait entendre. Ça va dépendre en fait de la vision de la Fed par rapport à plusieurs indicateurs, sur l'inflation bien sûr, mais aussi en ce qui concerne le coût du travail et la situation du marché de l'emploi aux États-Unis. On aura toutes les réponses tout à l'heure à partir de 20h pour l'annonce concernant les taux d'intérêt et à partir de 20h30 avec la conférence de presse de Jérôme Powell, le patron de la Fed. Vous l'avez dit Guillaume, lorsque la Fed parle, tout le monde se tait.
Tout le monde se tait, mais on en parlera avec vous à 20h tout à l'heure, Stéphane, sur BFM Business, bien sûr. Elle ne s'arrête pas, ces banques centrales, Audrey. Hein. La Fed ce soir, la BCE demain, ça continue sur les hausses de taux. Hein.
Oui, et alors, en effet, pas de surprise a priori sur ce qui va être annoncé ni ce soir ni demain. Maintenant, tous les regards se tournent vers la réunion qui est prévue, elle, en mars. Oui. Maintenant, le rythme et le calendrier du prochain resserrement monétaire, évidemment, dépendront de la conjoncture mondiale entre le ralentissement aux États-Unis et puis la relance en Chine.
Annonce de la Fed, donc, à suivre à 20h tout à l'heure en direct sur BFM Business. 18h03, en Europe, pendant ce temps, Bruxelles. A donc esquissé aujourd'hui quelques propositions pour soutenir la transition énergétique à l'échelle du continent. Ursula von der Leyen a notamment proposé de faciliter l'octroi des aides d'État en Europe pour les projets dédiés à cette cause. Pour répondre, ça va sans dire aux Chinois, aux Américains, bien sûr. Écoutez, Ursula von der Leyen.
Nous avons au niveau national un instrument bien connu, l'aide d'État, qui fait la promotion de l'investissement dans les secteurs stratégiques. L'Union européenne s'est déjà dotée d'un cadre temporaire de crise, et ce depuis le début de la guerre en Ukraine. Nous continuerons son adaptation pour être en phase avec les exigences de la neutralité industrielle. Ce cadre doit être spécifique et limité dans le temps. L'aide d'État et le financement sont les deux facettes d'une même réalité. Nous devons amorcer le financement de l'investissement maintenant, trouver une solution transitoire en attendant l'arrivée d'autres instruments financiers. Mais pour l'heure, nous devons utiliser les outils existants, ceux à notre disposition, en nous concentrant sur les technologies clean tech.
Voilà, Ursula von der Leyen tout à l'heure à Bruxelles. Est-ce qu'on reste pas un peu sur notre faim ce soir, Audrey, après ces annonces de Bruxelles, finalement?
On reste complètement sur notre faim, Guillaume. Pourquoi? Parce qu'Ursula von der Leyen, elle mise tout sur les 9 et 10 février prochains, qui sont les dates du prochain sommet européen, durant lequel elle espère mettre les 27 d'accord, sachant que ça promet des débats animés, puisqu'il y a déjà plusieurs pays qui commencent à émettre des réserves, parce qu'ils disent que l'assouplissement, justement, des aides publiques va bénéficier aux plus grosses économies l'économie, c'est-à-dire la France et l'Allemagne.
Sommet des 8 et 9 février, mais pas d'annonce concrète avant mars. Voilà, donc ça va encore un peu traîner finalement.
Et oui, il faudra être patient.
Il faudra être patient, effectivement. Et en tout cas, on sait que dès le 7 février, donc avant ce Conseil européen, eh bien Bruno Le Maire et son homologue allemand iront à Washington, précisément pour parler des conséquences du fameux IRA pour les Européens. Et alors justement, puisqu'on parle transition écologique, confirmation, chiffre à l'appui, que quand même il se passe quelque chose en Europe sur le véhicule électrique. 12% des voitures qui se sont vendues l'an dernier en Europe étaient des voitures électriques, c'était 9% seulement un an plus tôt. Nathan Cocampo.
1,1 million de véhicules électriques vendus en Europe l'année dernière, en progression de 28% sur un an. Des ventes tirées par l'Allemagne, mais aussi la Norvège, où 4 voitures 9 sur 5 sont électriques, un record. La Norvège, qui a pour objectif de ne plus vendre de voitures thermiques dès 2025, 10 ans avant ce que prévoit l'Union européenne. Au total, en 2022, les ventes d'électriques ont représenté 12,1% des voitures neuves, contre 9,1% un an plus tôt, et un peu moins de 2% en 2019. Les ventes de voitures diesel, elle continue de chuter fortement. Reste que les véhicules électriques sont encore achetés principalement par les Européens les plus aisés. Et si le leader Tesla a baissé ses tarifs en début d'année, ce n'est pour le moment pas une réflexion chez les autres constructeurs. Et un autre point faible demeure, celui des infrastructures. Il faudrait installer 14 000 bornes chaque semaine en Europe selon les industriels, soit 7 fois plus que ce qui est fait actuellement. Pourtant, les constructeurs n'arrêtent pas d'investir, déjà 250 milliards d'euros dans leur électrification.
Nathan Cocampo, on vous en parle. Et hier, ça se précise ce soir, un accord pour enterrer l'âge de guerre entre Airbus et Qatar Airways concernant les fameux A350. Vous savez que les deux groupes sont engagés dans une bataille juridique avec Qatar Airways qui accuse Airbus de défaut de conception sur ses appareils A350. Sauf que ce soir, on nous parle d'un projet de réparation. Je cite les deux groupes. On apprend aussi que le fabricant américain de puces Wolfspeed va construire une grosse usine de semi-conducteurs dans l'ouest de l'Allemagne. Un investissement à plusieurs milliards d'euros, dit-il, une usine de semi-conducteurs en plaques de 200 mm, je précise, pour les connaisseurs. Et puis, en France, il y a donc ce projet de loi immigration qui a été présenté ce matin au Conseil des ministres. Texte porté par Gérald Darmanin et Olivier Dussopt. Et on sait que le gouvernement veut mettre l'accent sur ce qu'on appelle l'intégration économique. Bonsoir Léo Dumas.
Bonsoir.
À ce stade, ça pèse quoi exactement l'immigration économique en France, Léo ?
Eh bien, en 2022, elle atteint des niveaux records. D'abord avec les étudiants étrangers, il s'agit désormais du premier motif d'admission sur le territoire, 108 000 en 2022. Mais surtout, la part de l'immigration de travail, elle n'a jamais été aussi haute. On parle ici des salariés, des saisonniers, des scientifiques. Ils étaient plus de 50 000 à obtenir leur premier titre de séjour l'année dernière. C'est une hausse de 45% sur un an. Enfin, le dernier volet de cette immigration économique, ce sont les régularisations de travailleurs sans papier. On en compte 11 000 l'année dernière, une hausse de 29%.
Et c'est justement là-dessus que le projet de loi compte insister, avec un nouveau titre de séjour apparemment.
Oui, un titre de séjour dit de métier en tension, qui permet de régulariser pendant un an les travailleurs sans papier, mais déjà sur le territoire. Comme son nom l'indique, il s'agit de renforcer les secteurs en manque de main-d'œuvre, comme la restauration ou la propreté. Une mesure qui fait écho à la demande de Thierry Marx, le nouveau patron de l'UMIH. Le projet prévoit également une carte de séjour pluriannuelle, cette fois pour les professionnels de santé. Il s'agit d'attirer les médecins, les dentistes ou encore les pharmaciens qui ont été diplômés en dehors de l'Union européenne. D'une manière générale, d'ailleurs, le projet de loi veut simplifier toutes les démarches pour les profils hautement qualifiés. L'objectif, Gérald Darmanin l'a expliqué ce midi, c'est une immigration choisie, mais sans quota ni plafond pour l'heure. Le gouvernement laisse cette porte ouverte dans le cadre de ses négociations avec les différentes oppositions, à droite notamment.
Voilà, texte qui arrivera donc au Sénat en mars prochain et à l'Assemblée nationale en mai ou juin prochain. Merci beaucoup Léo. Léo Dumas avec nous sur BFM Business, 18h09. On va sur les marchés tout de suite. Retrouver Stéphane Pedrazzi. Stéphane, on le disait, on attend la Fed, on n'a pas fait grand-chose du coup à la Bourse de Paris, ce qui a des valeurs qu'on surnageait un petit peu dans l'histoire.
Alors oui, Orpea qui s'est distingué aujourd'hui à la Bourse de Paris, mais pas forcément dans le bon sens. Le titre ce soir termine en baisse de 22% après l'annonce d'un accord de principe pour la restructuration financière de l'entreprise. Alors c'est une bonne nouvelle puisque ça va permettre d'effacer 3,8 milliards d'euros de dettes. En revanche, pour les actionnaires existants, c'est la douche froide. L'ensemble des actionnaires ne détiendra plus que 0,4% de l'entreprise s'ils ne souscrivent pas à l'augmentation de capital. Les souscripteurs, eux, vont prendre la main et notamment notamment la Caisse des dépôts qui devient le premier actionnaire d'Orpea avec 50,2% du capital. Le titre donc en forte baisse ce soir. À l'autre bout du tableau, Eramet, c'est un groupe minier. Il bénéficie d'un changement de recommandation. Le titre ce soir est en hausse de quasiment 14%. Et puis, petit coup d'œil sur le secteur bancaire parce qu'on cumule les bonnes nouvelles en Europe. Hier, on avait les résultats de UniCredit en Italie qui étaient des résultats records. On a eu des résultats records également pour BBVA en Espagne. Le titre termine en progression de 4,4%. Ces banques, en fait, ont été soutenues par la remontée des taux. Et on se dit que ça va peut-être porter chance aux banques françaises dont les résultats seront publiés la semaine prochaine.
Merci beaucoup Stéphane. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street à mi-séance, bien évidemment. Le Dow Jones qui perd 0,95%. C'est un peu dur. 33 761 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui chute également de 0,3%, 11 549 points. On ira bien sûr à New York dans une petite heure. 18h11, c'est l'heure de notre premier invité tout de suite sur BFM Business.
Good evening business, l'invité.
Pour parler des retraites avec François Omril, le président de la CFE-CGC qui nous rejoint sur ce plateau. Bonsoir monsieur Omril.
Bonsoir.
Installez-vous.
Bonsoir.
Vous en prie.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir sur BFM Business. Alors, vous n'allez pas me dire le contraire, mais est-ce qu'il y a secrètement... pour vous, l'idée qu'après la même forte mobilisation d'hier, il y a encore moyen de faire capituler le gouvernement sur les 64 ans, franchement. Je sais que vous n'allez pas me dire le contraire, mais peut-être depuis hier, cette opportunité s'est rapprochée.
Oui, non, mais j'ai bien compris votre question. Moi, je pense effectivement qu'il y a moyen que le gouvernement revienne à la raison. Mais... tout dépend aujourd'hui de la décision d'Emmanuel Macron. Voilà, faut pas tourner autour du pot. Hein. Aujourd'hui, c'est à l'Élysée que ça va se décider. C'est le président lui-même qui va finalement ouvrir ou non les portes sur cette question-là. On voit bien, le gouvernement n'est pas dans une position facile. Hein. Il se fissure un peu. Il y a des déclarations, celle de Franck Riester, qui nous donne un peu raison sur une petite partie du dossier, mais une partie importante. La Première ministre qui est obligée un peu de le redresser. Bon, tout ça montre bien que les choses sont un peu désordonnées aujourd'hui sur la position gouvernementale. Il y a des députés qui doutent. C'est une très bonne chose. Moi, je fais mon travail et je les fais douter. Pour certains, en tout cas, j'estime que je suis dans mon rôle.
Est-ce qu'il y a des alternatives, Audrey ?
Oui, voilà, c'est ça. Alors, est-ce que, pour être très clair, est-ce que vous pensez qu'en augmentant un peu les cotisations, on peut aller chercher justement ces milliards qui manquent, quitte à augmenter un peu le coût du travail ?
Moi, c'est pas ma vision des choses.
Certains syndicats voient ça comme ça. C'est pour ça que je vous pose la question. Quelle est l'alternative,
non,
finalement ?
Moi, je vois pas les choses comme ça. Dans ce dossier, il y a plusieurs étapes. Il y a la première étape qui est la première version du gouvernement. C'est la version de l'élection présidentielle avant l'élection législative. Et cette version-là, c'est la vraie version. Moi, c'est mon sentiment.
Alors, c'est-à-dire, vous me parlez de la réforme systémique.
Non, en fait, le gouvernement dit j'ai besoin d'argent. Voilà, nous sommes à l'État, nous sommes très endettés, etc. Nous avons une forte pression des marchés, nous avons besoin de financer des politiques publiques, nous n'avons plus les budgets nécessaires. Pour pouvoir mobiliser des budgets supplémentaires, il faut que les gens travaillent plus. Nous n'avons pas trouvé d'autres moyens. Je pense que ça, c'est la vraie raison. Or, après, il s'est passé quand même un événement pas tout à fait neutre dans cette affaire. C'est qu'il y a eu les élections législatives. Et du coup, le gouvernement n'a plus de majorité absolue à l'Assemblée. Donc, il va falloir composer. Et à partir de ce moment-là, vous l'avez bien observé, tout d'un coup, la version va changer. On va, d'une certaine façon, un peu inventer cette histoire du déficit, de la catastrophe, etc., qui n'était pas dans le dossier au début. Pourquoi ? Parce qu'on pense que ça va avoir un impact plus fort sur la population et qu'on va ramener l'adhésion de la population sur ce sujet-là. Ça marche pas, parce que les indicateurs techniques, nous on les connaît, on est sur du prévisionnel sur lequel il y a tout un tas d'indicateurs qui sont discutables, voire contestables, et de toute façon, il n'y a pas d'urgence. En matière de retraite par répartition, il n'y a jamais d'urgence. Il faut piloter à distance, il faut avoir les idées claires, pour prendre ses responsabilités.
La question d'Audrey est aussi la même, c'est notre question. C'est quoi l'alternative au passage à 64 ans, finalement ? Si c'est pas c'est pas l'augmentation des cotisations, c'est quoi pour vous là ?
C'est pour ça que j'y reviens, voilà. Si vous voulez. Cette volonté de passer à 64 ans, c'est parce que l'État ne veut plus faire face à son engagement de payer le complément de retraite pour les fonctionnaires. L'idée, c'est ça. Et ça a été dit, c'est très clair, en fait. Et donc, il y a aussi le fait que l'État est très engagé dans les compensations de cotisations dont il exonère les entreprises. Tout ça, c'est les mesures fiscales et socio-fiscales. C'est plus de 200 milliards. Et donc, au même moment, le gouvernement, finalement, nous dit, j'ai plus d'argent, mais en même temps, il exonère une fois de plus 8 milliards d'euros de cotisations. cotisation sur la valeur ajoutée. Et c'est le paradoxe de discours qui n'est pas supportable. Finalement, d'un côté, toujours plus d'argent pour les entreprises sans discernement et sans condition. Je veux rappeler que nous ne sommes pas contre le fait qu'on aide les entreprises et l'économie. Au contraire, on est plutôt favorable. Mais simplement, il faut que ce soit fait de façon coordonnée.
Non, mais d'accord, mais donc on toujours plus d'argent pour les entreprises. Ce que le gouvernement dit, mais qu'est-ce que vous dites, vous ? Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement ?
Le gouvernement, il a besoin de mobiliser des masses financières supplémentaires pour financer ses politiques publiques.
Oui.
Il s'en prive en multipliant les subventions aux entreprises qui ne sont pas efficaces sur le plan économique. Le gouvernement n'a qu'à récupérer une partie de ce qu'il donne sans discernement et sans condition aux entreprises qui, pour la plupart, les transforment en dividendes immédiatement, voire pire, en rachat d'actions.
Quand vous dites sans condition, si c'est pour les conditionner à des offres à un tel taux d'embauche ou d'emploi de salariés, ça marche pas comme ça. On a déjà eu ce débat pendant le CICE, vous savez très bien. Vous pouvez pas conditionner les aides à la création d'emplois chiffrés, pour le coup.
Je suis absolument pas d'accord avec vous. Le CICE, on donne l'argent. Et on dit aux entreprises, soyez gentils, faites ça. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut dire aux entreprises, ayez des résultats. Sinon, les subventions, eh bien, on vous les retirera. C'est pas la conditionnalité, c'est ça. Quand l'État se prive de moyens budgétaires pour agir, qu'il les donne aux entreprises, eh bien, il faut qu'il y ait des conditions à l'emploi utile de ces sommes-là. C'est ça que nous on demande. Et on pense que c'est pas si compliqué que ça. Et on s'interroge quand même de savoir pourquoi, au moment même où le gouvernement va demander aux Français de travailler 2 ans de plus, eh bien, il exonère les entreprises de la cotisation sur la valeur ajoutée.
Donc,
on parle bien de la valeur.
Si on comprend bien, aucune ligne commune possible, même si le gouvernement revient vers vous sur le sujet, par exemple, des seniors, de la prise en compte de la pénibilité, sur le sujet des inégalités femmes-hommes, à partir du moment où il ne touche pas au curseur de l'âge légal, zéro discussion possible.
Alors, j'ai la réponse là-dessus. Le gouvernement aujourd'hui, la mobilisation, le mouvement social, c'est pour le retrait à 64 ans. De la mesure à 64 ans. Après, sur la question de l'emploi des seniors, moi je vous l'affirme ici, rien ne sera fait. Le dossier n'évoluera pas dès l'instant qu'on ne contraindra pas les entreprises à travers un certain nombre de moyens.
Donc, mais vous voulez des lois coercitives pour les entreprises et en plus de ça, qu'on les fasse participer financièrement.
Mais on n'a pas besoin d'être coercitif. C'est très simple. Il faut faire, pour les entreprises, il faut avoir la même exigence vis-à-vis des entreprises que celles qu'on a vis-à-vis des chômeurs indemnisés. Ils n'ont pas les résultats, ils ratent un rendez-vous avec leurs conseillers, ils n'ont plus la subvention. Enfin, je veux dire, je demande pas la lune quand même.
Mais qu'est-ce que vous demandez aux entreprises d'instaurer des quotas?
Alors juste, non, mais excusez-moi.
Attendez, vous allez demander quoi? Des quotas de seniors?
C'est faux, quand on rate un rendez-vous, si on le justifie, on peut même le rater deux fois.
Écoutez, moi,
attendez, vous avez demandé des quotas de seniors aux
entreprises. On peut rentrer dans ce débat-là. Nous, on pense que ce dossier-là, il faut le travailler en profondeur, même s'il apparaît complexe. Il faut partir d'une situation. La situation aujourd'hui, c'est que la France, c'est ce pays qui se distingue par rapport aux pays de l'OCDE en général, par le fait que les entreprises, principalement les grandes entreprises, il faut bien le dire, se séparent, ont ce tropisme très important de se séparer de leurs salariés à partir de 58 ans.
Il y a un vrai problème.
Il y a des plans dans les grandes entreprises. Donc là-dessus, on peut, nous on le croit sincèrement, on peut travailler de façon objective vis-à-vis des entreprises avec des indicateurs et surtout avec des moyens pour avancer. Ces moyens, évidemment, ils doivent être basés sur la négociation et sur la production d'accords qui engagent les parties prenantes dans l'entreprise. C'est l'évidence. Quand on parle de moyens coercitifs, je suis toujours un petit peu gêné parce que je crois qu'on a à notre disposition dans les entreprises, nous, représentant les salariés et vis-à-vis des employeurs, tout un tas de moyens disponibles qui, passant par la négociation, passant aussi par l'intervention de l'État dans un cadre, justement, qui contraint l'issue de la négociation, on peut avancer pour ce sujet. Nous, on a fait 23 propositions sur le sujet et qui permettent, dans notre analyse, d'aller sur 100 000 emplois supplémentaires pour les gens en fin de carrière.
Alors justement,
ça génère des
coûts extrêmement importants. Alors, en parlant d'emplois supplémentaires, notre ministre du Travail, Olivier Dussopt, lui dit que ces nouvelles règles, elles vont justement générer 100 000 à 150 000 retours à l'emploi supplémentaires en un an.
Non, moi je ne le crois pas du tout. En fait, c'est ce qu'on appelle l'effet d'horizon. Moi j'appelle ça l'effet de traîne. Vous décalez la limite. Je pense qu'il parlait du décalage à 64 ans.
Hein, oui, c'est ça.
Sur la réforme de l'assurance chômage, pardon, on est sur la réforme de l'assurance chômage.
Ah, mais sur l'assurance chômage, c'est différent.
Il nous reste deux minutes pour en parler, voilà.
Moi, je ne le crois pas du tout.
Au milieu de tout ça, les règles sont entrées en vigueur aujourd'hui, il y a une nouvelle règle.
Oui, je le sais, mais on a beaucoup contesté cette réforme de l'assurance chômage.
Ce sont les deux faces d'une même pièce.
Tout à fait.
Période verte, période rouge.
La réforme de l'assurance chômage postule que le chômeur indemnisé est un fumiste en puissance et qu'il ne recherche pas activement du travail parce qu'il est indemnisé. Or, ça est contredit par tous les éléments d'expertise, toutes les études qui ont été faites montrent que la morale, il est inférieur à 10% en France. Donc moi, je n'arrive toujours pas à comprendre quelle peut être cette motivation populiste, finalement.
Enfin, vous savez bien que c'est
quand on est indemnisé, on n'est pas motivé à retrouver un emploi.
Oui, mais c'est environ 6 mois avant la fin des droits qu'on a une accélération sur la recherche d'emploi.
Oui, vous savez, c'est comme quand on a arraché 6 pattes à une puce, quand on lui dit saute, elle n'arrive plus à sauter.
Elle devient sourde.
On prétend qu'elle est sourde. Oui. C'est exactement le même raisonnement. Évidemment, quand les gens ils arrivent à la fin de l'indemnisation et qu'ils ont une certaine qualification, qu'ils cherchent un emploi d'un même niveau de rémunération, eh bien, c'est pas si facile que ça.
Est-ce que le taux de chômage...
Donc, ils vont arriver à la fin de l'indemnisation, ils prennent n'importe quel boulot. Mais ça, c'est pas sain pour l'emploi non plus. Parce que quand on a un emploi qualifié et que quand on est à la panique et qu'on reprend n'importe quel emploi, on le prend à quelqu'un qui est moins qualifié que soi. Et là encore, il y a des études sur le sujet. On sait que c'est très nocif au principe objectif pyramidal dans le retour à l'emploi.
Certains disent, pour finir, le vrai défaut de cette réforme, c'est le manque d'accompagnement et de suivi exigeant pour les chômeurs. Vous êtes d'accord avec ça ? Vous dites là aussi
Mais là, je suis absolument d'accord, effectivement. C'est vrai qu'aujourd'hui, le chômeur est un peu livré dans la nature. Mais
accompagnement et suivi exigeant. Pour ne pas dire vraiment... est-ce qu'on n'est pas sans arrêt un petit peu trop à demander aux chômeurs s'ils recherchent un emploi, mais quitte à le radier de manière assez facile, assez rapide?
De toute façon, c'est la course à la radiation, on le sait très bien.
C'est la course à la radiation, donc on est d'accord.
De toute façon, le gouvernement ne communique... Excusez-moi, j'ai mal compris votre question. On ne communique que sur les chômeurs indemnisés, mais il y a quand même aujourd'hui 5 millions de personnes qui sont sans emploi. Et donc, effectivement, on nous dit qu'on va vers le plein emploi.
Beaucoup de chômeurs qui ne sont pas indemnisés.
Quand on aura radié tout le monde et qu'il n'y aura plus d'indemnisation, on sera dans le plein emploi, mais il y aura toujours 5 millions de chômeurs. Donc on n'aura pas réglé le problème.
Bien, donc ça nous fera encore bien des motifs de défiler pour vous la semaine prochaine, les 7 et 11. Elles vont les dates du 7 et 11.
Je ne vous ai pas vu dans la manif, mais peut-être que j'ai mal regardé.
Ah non, on est en plateau.
Oui, mais nous,
vous y serez peut-être. Vous en parlez, c'est très bien. Vous avez raison.
Nous en ferons état, bien sûr, la semaine prochaine. Merci beaucoup, François Omeril, président de la CFE-CGC avec nous ce soir sur BFM Business. Merci beaucoup, à très vite. Et bon courage pour la semaine prochaine. 18h22, on marque une pause.
Et oui, et c'est l'heure du grand débat de Good Evening Business. Guillaume, on va retrouver nos éditorialistes dans un instant.
Avec un menu très chargé, on parlera d'Ursula von der Leyen qui n'a pas soulevé les foules aujourd'hui en parlant des technologies vertes. On parlera de cette réforme des retraites et de l'assurance chômage. Ça fait un beau menu, tout ça.
Voilà, on continue. À tout de suite.
Good Evening Business, le débat.
Allez, 18h26, c'est le début du débat. Ils sont partis sur les retraites. Vous attendrez 10 minutes, un quart d'heure pour parler des retraites, car nous en parlerons. André Tcharkov avec nous.
Rebonsoir.
Rebonsoir, Audrey. Bruno Grandjean est avec nous. Bonsoir, Bruno. Président de Redex, qui conçoit des machines-outils dans le Loiret, ancien président de la Fédération des industries mécaniques. Bruno Coquet, bonsoir, Bruno.
Bonsoir.
Docteur en économie, chercheur associé à l'OFCE. Et Emmanuel Lechypre pour BFM Business. Bonsoir, mon cher Emmanuel.
Bonsoir.
On va parler d'Ursula von der Leyen. Alors, c'est pas qu'on attendait de voir ce qu'on allait voir, mais on nous avait quand même annoncé des annonces fortes de Bruxelles, vous savez, pour concurrencer chinois et américains dans le domaine des technologies vertes. Est-ce qu'on serait pas quand même un petit peu déçu ce soir, Audrey, finalement.
Oui, mais alors, enfin, elle a quand même fait une vraie annonce qui propose d'assouplir les règles en Europe en matière d'octroi des aides d'État. On l'écoute tout de suite.
Nous avons au niveau national un instrument bien connu, l'aide d'État, qui fait la promotion de l'investissement dans les secteurs stratégiques. L'Union européenne s'est déjà dotée d'un cadre temporaire de crise, et ce depuis le début de la guerre en Ukraine. Nous continuerons son adaptation pour être en phase avec les exigences de la neutralité industrielle. Ce cadre doit être spécifique et limité dans le temps.
Bon, on a quand même l'impression pour le bazooka anti-IRA américain, on va quand même attendre encore un petit peu, Audrey, fondamentalement.
Oui, alors ne soyons pas si négatifs. Je vais laisser ça à mes collègues dans un instant. il faut quand même admettre qu'un encadrement simplifié, évidemment, ça va faciliter pour les entreprises, en tout cas la transformation des compétences en emplois de qualité et puis l'innovation technologique en production à grande échelle. Maintenant, il y a déjà certains pays qui commencent justement à émettre des réserves parce qu'ils disent que justement sur cette question d'assouplissement l'argent des aides publiques, ça va bénéficier aux économies les plus fortes en Europe, c'est-à-dire à la France et puis à l'Allemagne. Et je termine là-dessus, elle ne pouvait pas non plus dire grand-chose parce qu'elle attend ce fameux sommet européen qui a lieu les 9 et 10 février prochains. Hein,
On assouplit ces règles d'octroi des aides publiques provisoirement jusqu'en 2025. Est-ce qu'on passe pas encore un peu pour les idiots du village, là, quand même, sur cette histoire?
Les idiots du village global, on remet ça, effectivement. On aurait pu répondre avec un équivalent européen, finalement, une prime à tout ce qui est fabriqué en Europe et qui va dans le sens de la décarbonation. Et puis, on est parti sur des éléments de langage, sur des acronymes. Là, il y a encore toute une série d'annonces, mais tout ça, c'est en fait parce que d'un côté, vous avez une technocratie européenne, de l'autre côté, vous avez un pays, vous avez une nation. Vous avez une forme de patriotisme. Et donc, on joue pas armes égales, en fait, dans ce débat.
Bruno, on a une minute, et puis après, on fait la pause, et on y reviendra. Mais
on va prendre les bonnes nouvelles. C'est qu'on se rend compte qu'il y a un problème sur les aides d'État. C'est la première chose. Deuxième chose, dans ce texte, il est quand même dit que si on se rend compte qu'il y a des subventions dans les pays extra-européens qui sont un peu iniques, enfin je ne sais plus le terme exact, on peut envisager d'assouplir les aides d'État dans ces domaines-là. Après, le fait que ça dure 3-4 ans, c'est un pied dans la porte. Et puis après, ça peut être élargi. Donc, si on veut voir les choses positivement, je pense qu'il y a quand même quelques points positifs. Ça reste une communication de la Commission. Hein, donc, dans le degré des la hiérarchie des normes, c'est le degré bas.
Hein. On espère quand même que ça va être suivi des faits. Donc, on a dit Conseil européen les 8 et 9. On va faire le flash et ensuite, Emmanuel Le Chip va entrer en scène.
Conseil européen, le pire, Guillaume.
Oui, le 8 et 9, Conseil européen. Et la veille, le 7, donc, ça a été annoncé aujourd'hui. Bruno Le Maire et son homologue allemand iront à Washington en éclaireur, un peu comme on dit, chez les scouts, pour parler des conséquences concrètes de cet IRA américain. Bon, Emmanuel Le Chip va nous dire ce qu'il en pense dans un instant. Je vois à son regard qu'il a envie de réagir vertement. On voit ça dans un instant, puisque pour l'heure, il est 18h30 sur BFM Business.
Good evening business, le débat.
Avec Audrey Tcherkov, bien sûr, comme tous les soirs, avec Bruno Grandjean, avec Bruno Coquet et Emmanuel Le Chip, que nous allons écouter religieusement. Alors, on était effectivement sur ces déclarations d'Ursula von der Leyen, qui nous annonçait qu'on allait assouplir les règles en Europe en matière d'octroi des aides d'État pour tous les projets qui touchent aux technologies vertes. Bon, j'ai l'impression que pour vous, il n'y a pas grand-chose dans ce qui a été annoncé aujourd'hui par Bruxelles, Emmanuel. Me trompe-je?
Je me mets à la place de Joe Biden, dans son bureau ovale, qui regarde parler Ursula von der Leyen. Je pense qu'il est pris d'un fou rire irrépressible.
Oh, mais c'est un peu condescendant, Emmanuel.
Mais pas du tout. Mais on n'apprend rien. C'est-à-dire qu'en gros, d'un côté, vous avez un pays qui met 350 milliards sur la table. De l'autre, vous avez une maîtresse d'école qui dit « Oh là là, oui, alors vous allez peut-être pouvoir jouer un petit peu plus longtemps dans la cour de récré parce qu'on va assouplir quelques conditions, etc. » Et puis vous voyez qu'il se passe déjà ce qui se passe d'habitude. C'est-à-dire que vous êtes à peine dans la cour de récré qu'il y a déjà ceux qui râlent contre ceux qui vont profiter plus que les autres, et que ça se chamaille, et que ça se chamaille. Et pendant ce temps-là, il se passe beaucoup de choses ailleurs. Et
moi, mais vous savez bien que le temps que les 27 se mettent d'accord, évidemment, ça prend plus de temps que quand on est, en effet, à la tête d'un pays comme les États-Unis, où ça va beaucoup plus vite.
Et pousser le raisonnement plus loin. Quel résultat ça a produit depuis 25 ans ou 30 ans? Quel résultat ça a produit? Alors, je ne vous dis pas qu'il faut remettre en cause tout, etc. Mais grosso modo, vous voyez bien que les handicaps...
Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Pardon.
On a surmonté. Attendez, il n'y a pas la queue d'un euro neuf dans ce qu'a dit Ursula von der Leyen.
On va piocher notamment dans ce qui reste du plan de relance européen.
Le chiffre de 200 milliards, etc. Mais grosso modo, c'est de l'argent qui était déjà sur le tapis. Et donc, à côté de ça, alors, on va faire encore des exonérations de charges. Et des...
Non, franchement, vous êtes dur. Quand elle parle d'argent neuf, on la taxe justement d'augmenter les dépenses publiques quand elle veut utiliser les poches existantes.
Alors, Bruno Coquet.
On n'est pas d'accord non plus.
Moi, je suis d'accord avec quand même beaucoup de choses de ce que dit Emmanuel, sauf sur un point. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Les 350 milliards de l'Inflation Reduction Act, c'est sur 10 ans.
Ouais.
Le PIB américain, c'est 23 000 milliards par an.
Mais c'est rien.
Donc, du coup, l'Inflation Reduction Act, quand on prend le
c'est peanuts, financier,
c'est rien.
Peanuts, on a dépensé plus en cherche carburant l'année dernière. Hein, donc, du coup, c'est pas ça le problème. Le problème est plutôt... Enfin, le problème. La mesure intéressante dans l'Inflation Reduction Act, outre le prix des médicaments, c'est, qui sera négocié entre l'État et le système de santé, c'est les réductions d'impôts qui sont cessibles entre entreprises. La communication de la Commission est porte quand même sur ce point, c'est-à-dire les aides d'État, c'est pas directement des réductions d'impôts, mais on voit bien qu'on on va derrière le rideau de il y a des milliards qui sont mis sur la table. Et donc du coup, moi je pense que c'est vraiment là où il faut s'intéresser à la mesure américaine. Pourquoi elle fait si peur? C'est parce que derrière il y a autre chose que des milliards qui sont encore une fois peanuts.
Bruno Grandjean,
oui, il y a un autre point. J'ai relu le document américain et on parle des économies hostiles. D'éviter que les subventions aux véhicules électriques, par exemple, puissent être utilisées par des pays hostiles. Il y a vraiment derrière cette bagarre avec la Chine, derrière...
Oui, ça a un protectionnisme qui
et l'Europe, pas, finalement, c'est ce qu'a essayé Emmanuel Macron, et c'est sans doute ce que vont faire les ministres de l'économie, vont essayer de rentrer dans le club, de dire, nous, on n'est pas un pays hostile, donc on ne doit pas être frappé par cette distorsion.
Alors, ceci dit, pour le moment, on n'a pas réussi à négocier d'exemption, hein.
Oui, mais il y a un débat aux États-Unis, je pense, là-dessus, sur de ne pas se mettre à dos les Européens. Et finalement, tout ça n'est pas tellement économique, c'est plus de la géopolitique.
Il y a un truc aussi, Bruno, c'est qu'on voit que les Allemands, par exemple, sont contre la proposition française de créer un fonds souverain d'aide aux entreprises, finalement. Oui, si déjà, entre nous, on n'arrive pas à se mettre d'accord.
On est sur un énorme problème.
Mais pourquoi les Allemands n'en veulent pas? C'est toujours l'histoire.
Parce que les Allemands, ils ne veulent pas avoir de dette. D'accord. La dette, c'est quelque chose de mal, c'est quelque chose de nuisible. Et donc, ils font tout pour réduire la dette. Et notamment, ils ne veulent pas porter la dette des autres. Et finalement, on voit une grande divergence entre les économies du Sud et celles du Nord. D'ailleurs, les pays de l'Est sont très, très faiblement endettés. Oui. Qui va, à un moment, conduire à un conflit. Une vraie divergence. La France ne voit comme politique industrielle que plus de subventions et plus d'étatisation. C'est pas du tout l'approche allemande. L'Allemagne, c'est le Mittelstand, c'est beaucoup d'entreprises qui se considèrent comme indépendantes, autonomes, capables d'innovation et qui n'ont pas besoin de subventions. Elles ont besoin d'un cadre réglementaire et fiscal efficace. Il n'y a pas de CVAE en Allemagne. Ça n'existerait, on n'y penserait même pas.
Bon, donc, okay. Et puis, en un mot, vu de Bruxelles, les Français aiment les institutions, quitte à ce qu'après elles meurent, etc. Ils habitent une institution, après on ne s'en occupe plus. Les Allemands, ils aiment les règles. Ouais. Et donc, du coup, il y a un conflit toujours là-dedans. Donc, il faut voir quelles règles proposent les Allemands en concurrence de l'institution que proposent les Français, quoi, pour trancher.
Bon, oui, enfin, juste ce qu'on entend aussi quand même en filigrane derrière les mots de Ursula von der Leyen, c'est que l'Union européenne aujourd'hui est fortement tributaire de la Chine pour tout ce qui est terres rares et lithium, qui sont absolument essentiels à la transition écologique. Et on entend bien sa volonté justement de nous rendre beaucoup plus indépendants. Alors maintenant,
allons-y.
Bah oui.
On en a des terres rares.
Mais oui.
Non, comment ça on a des terres rares?
Mais bien sûr que oui, les terres rares, c'est pas. Enfin, les terres rares, c'est une catégorie de métaux, mais en fait, des terres rares, il y en a partout. La réalité, c'est que les conditions d'exploitation des terres rares sont extrêmement dures vis-à-vis de l'environnement. C'est-à-dire que des puits de pétrole à côté, c'est de l'aimable jardinage, si vous voulez, par rapport à l'extraction des métaux rares. Donc la question, c'est.
Le temps de trouver les gisements.
La question, regardez ce qui se passe en Suède, par exemple.
Oui, en Suède, oui, voilà.
Mais sauf que, encore une fois, l'exploitation se fait à des conditions qui sont quand même assez dures pour l'environnement. Et donc, est-ce qu'on est prêt, là, encore une fois? Il faut se poser la question.
C'est pour ça que le sommet européen qui arrive en février va être absolument essentiel.
Est-ce qu'on est prêt à sacrifier un peu d'environnement pour notre indépendance ou pas du tout?
On verra ce que sera ce conseil européen.
On va le suivre de près, oui.
Le grand soir, peut-être pas pour demain matin. Enfin, on verra bien, évidemment, la semaine prochaine. On va revenir en France avec quel thème, on avait dit?
L'assurance chômage,
évidemment.
Évidemment, très lié à la réforme des retraites.
Évidemment, parce qu'au milieu de tout ça, les nouvelles règles sont entrées en vigueur aujourd'hui. Hein, vous savez, celle qui prévoit la durée d'indemnisation sera modelée en fonction de la conjoncture, période verte, période rouge. Voilà ce qui entre en vigueur aujourd'hui, Audrey.
Alors, on va vous demander, messieurs, si vous êtes pour ou contre. En tout cas, on va d'abord écouter avant l'économiste Éric Heyer, qui était ce matin sur BFM Business. Et lui, clairement, il est contre.
Éric Heyer. On peut pas considérer que le taux de chômage reflète la santé des marchés du travail. Il est possible que le taux de chômage baisse, mais qu'il y ait des secteurs qui soient encore en crise. On va finalement contraindre des chômeurs qui jouaient le jeu à soit être pénalisés, soit à retourner très vite sur le marché du travail, quitte à accepter un emploi dégradé par rapport à leurs compétences.
Le taux de chômage est-il révélateur de l'état du marché du travail? Ça, c'est un vrai sujet de bac, ça, pour le coup, hein, Bruno.
Mais ça révèle certains aspects du marché du travail.
Oui,
donc ça,
mais
c'est
pas tout. Certitude.
Pas tous. Alors après, dans la réforme, le point est de savoir, est-ce qu'il y a une... C'est quoi la période verte, la période rouge?
Alors, je vous la refais. Ah. Non, mais période verte, taux de chômage au moins 9%.
Il le sait.
Période rouge, chômage à plus de 9%.
Pour les auditeurs. Oui.
Mais donc en fait, moi je vais dire, il n'y a qu'une période rouge. C'est-à-dire maintenant, les droits ont baissé de 25% pour toujours. Éventuellement, quand le taux de chômage repassera au-dessus de 9%, il y a un complément d'indemnisation qui n'est pas le retour au droit actuel. C'est-à-dire si on naviguait par exemple entre 9,1 et 8,9 en permanence, c'est une lumière qui s'allume et qui s'éteint. Et quand elle s'éteint, le complément d'indemnisation, c'est définitivement. Alors que le droit, lui, tel qu'il était, ne s'éteint pas. Donc du coup, on est tout le temps en période rouge. Les droits ont baissé de 25% pour toujours. Il faut noter que dans tous les papiers qui soutiennent la contracyclicité, alors il n'y en a pas, hein, c'est juste une baisse des droits, dans tous ces papiers...
C'est quoi la contracyclicité, Bruno ?
La contracyclicité, c'est le fait que l'indemnisation du chômage est moins longue durant les périodes où ça va bien et plus longue dans les périodes où ça va mal. Donc après, il faudrait dire quand est-ce que ça va bien ou ça va mal. Tous ces papiers disent d'abord qu'il faut que lorsque ça va bien, les recettes baissent et lorsque ça va mal, elles augmentent. En France, comme dans beaucoup de pays, elles sont stables au cours du temps. C'est un taux de cotisation, en gros, qui ne varie pas avec le temps. Et donc, du coup, ça, c'est déjà contracyclique. Et donc, en suivant la logique qui a été prise, il aurait d'abord fallu rendre contracyclique les recettes, c'est-à-dire baisser les cotisations de 25%. Je ne sais pas si vous savez, mais combien de temps vous passez chaque année à payer votre assurance chômage ?
C'est un peu comme
les femmes qui commencent à travailler gratuitement fin novembre, choses comme ça. Mm-hmm. Ben, l'assurance chômage, c'est 25 jours. Donc, vous avez arrêté de payer pour votre assurance chômage le 25 janvier. Tout votre salaire a été consacré. Donc, on paye beaucoup. Donc, après, le problème n'est pas savoir si c'est généreux ou pas, etc. C'est si c'est optimal, c'est-à-dire si on en a pour son argent par rapport au risque.
Est-ce que ça va avoir un impact sur le niveau de chômage ou pas ? Est-ce que ça va vraiment inciter les gens à retourner au boulot ?
Mais bien sûr, les évaluations sur l'assurance chômage, elles portent sur la durée passée au chômage. C'est comme si à l'hôpital, tu regardais le temps que les gens sont hospitalisés. C'est toujours trop long. Le point, c'est que tu peux diviser par deux, les gens vont sortir de l'hôpital, est-ce qu'ils sont soignés ?
Alors,
or, ce côté-là, on ne le regarde, les évaluations économiques ne le regardent pas.
Bruno Grandjean, sur cette réforme de l'assurance chômage. C'est règle qu'entre en vigueur aujourd'hui, donc.
Microéconomique, je dirais, mais on le voit très bien. Beaucoup de gens optimisent le passage au chômage en passant d'un boulot pour recharger des droits à une période de chômage. Ça, c'est une réalité française. Et de toute façon, la quantité de travail produite en France est insuffisante. D'ailleurs, la réforme des retraites est aussi basée sur ce raisonnement. 3 000 milliards de dettes. Donc, il faut travailler plus, d'une manière ou d'une autre. Et donc, il faut passer moins de temps au chômage et aller vers ce qu'on appelle effectivement en Allemagne des mini-jobs. Mais finalement, c'est peut-être mieux un mini-job.
Est-ce que pour vous, on encourage vraiment au retour au travail par cette loi ? Enfin, voilà,
Bien sûr. À partir du moment où vous faites... Tout le monde optimise. Optimise en permanence. Moi, je me souviens du témoignage d'un ancien ministre du Travail qui disait que il n'avait pas le droit de le dire, bien entendu, mais que beaucoup de salariés optimisaient, par exemple, les coûts de déplacement. À partir du moment où c'était trop loin, ça coûtait trop cher, ils préféraient rester au chômage. On fait en permanence tous des calculs d'optimisation. Et donc, si on change cette variable, on va aller vers plus d'emplois.
Audrey.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que le prisme franco-français nous fait dire que c'est une réforme qui est très antisociale. Alors qu'en réalité, c'est pas vraiment un électrochoc. Hein. Quand on regarde, par ailleurs, toutes les études, le seul paramètre qui fonctionne pour le retour au plein emploi, c'est justement la manière dont on modèle cette durée. Maintenant, moi, je pense que l'objectif pour le gouvernement dans cette réforme est double. C'est un, reprendre la main totalement et s'émanciper quelque part des partenaires sociaux. Et puis, deuxièmement, aussi absorber cette dette de 64 milliards. Parce qu'une assurance chômage qui a 64 milliards d'euros de dette, elle peut pas continuer à vivre dans ces conditions.
Eh ben, justement, les partenaires sociaux, Marc, la pause, Bruno, on ira dans un instant au côté. Oui, on va revenir, vous inquiétez pas, on vous coupe la chic. Hein.
Pas d'accord avec moi, Emmanuel.
Oui, mais Bruno va répondre dans un instant.
C'est l'escroquerie.
Et vous aussi, évidemment. On parle de l'assurance chômage toujours dans un instant.
Une de plus.
Et la réforme des retraites, bien sûr, qui arrive dans la foulée.
À tout de suite.
Good evening business, le débat.
Allez, 18h47, ça jacasse toujours pendant la pub, bien sûr, sur le débat de l'assurance chômage. Audrey Tcherkov, Bruno Grandjean, Bruno Coquet, Emmanuel Le Chip, ça jacasse. On n'a pas encore tout.
Alors, beaucoup de désaccords pendant cette pub. Bruno Coquet, vous n'êtes pas d'accord avec moi sur le fait qu'il y a 64 milliards d'euros de dettes sur cette assurance chômage et sur le fait que passer de 24 à 18 mois, ça ne va pas laminer la population de chômeurs.
Alors, sur la dette, l'UNEDIC, c'est une caisse où il y a plusieurs choses dedans. La première chose, c'est le droit commun, c'est celui que l'on réforme et dont il est question là dans le décret ce mois-ci. Ce droit commun, depuis 1997, chaque année, il a été excédentaire, c'est-à-dire que les gens ont contribué plus qu'ils n'ont bénéficié de prestations.
Très clair, oui.
Qu'est-ce qui crée la dette ? Pôle emploi. 4,2 milliards par an en ce moment. Si vous faites la somme des contributions à Pôle emploi, elle excède largement la dette qu'il y avait avant la crise Covid. Pourquoi c'est un problème ? Parce que essentiellement Pôle emploi s'occupe de gens qui ne sont pas indemnisés par l'UNEDIC. Donc Pôle emploi doit être financé par le secteur public. C'est un service public, il doit être financé par l'impôt, pas par des cotisations sur les chômeurs indemnisés. C'est quand même 120 euros par mois et par chômeur indemnisé. Donc c'est comme si on allait chez le médecin 5 fois par mois. Donc c'est colossal. Donc ça déjà, ça explique la dette d'avant. Bon, il y a les intermittents du spectacle, il y a les frontaliers, 700 millions par an qu'on peut régler d'un trait de plume, parce que c'est pas du droit européen, contrairement à ce qui est dit. Et puis il y a ce qui s'est passé pendant la crise Covid. Un tiers de la facture de l'activité partielle a été mise à la charge de l'UNEDIC. Aucune raison de faire ça.
Donc vous dites que c'est un système à l'équilibre.
Comment ?
Vous me dites que c'est un système qui est à l'équilibre.
Le système qui est réformé depuis toujours, il est à l'équilibre depuis toujours. Et il génère des excédents qui financent le reste. Voilà.
Donc, voilà pour cette précision.
Donc on paye trop, en gros.
On ne mettra pas tous d'accord sur ce sujet. On a 7 minutes pour parler des retraites, quand même.
Alors, on n'a pas entendu Emmanuel sur l'assurance chômage.
Non, mais j'ai rien à ajouter.
Ah bon, d'accord. Bah,
pour une fois.
Gardez-en pour les retraites, alors.
Trop fort.
La réforme des retraites, donc, on a un gouvernement qui garde le cap, selon l'expression chère aux journalistes en général, vous savez les métiers qu'on fait, qui cherche la martingale, je l'ai vu aussi. Voilà, le gouvernement cherche la martingale. Ou le bon message pour essayer de convaincre les Français, toujours du bien fondé de la réforme, évidemment, hein, Audrey.
Ah bah alors là, du coup, on lance Emmanuel.
Oui. On écoute Olivier Dussopt, tiens, d'abord, 20 secondes.
Ah oui, qui,
alors lui, il ne capitule pas sur les 64 ans, écoutez.
Ce qui n'est pas négociable, c'est le retour à l'équilibre. Et si on ne va pas à 64 ans en 2030, on n'équilibre pas le système. Et donc, c'est important d'avoir un âge de départ qui nous permette de faire face à un défi démographique qui fait qu'il y a moins de cotisants par retraité et que si on veut avoir des recettes pour payer les retraites, sauver le système, mais aussi financer de nouveaux droits sur les carrières longues, sur le fait qu'on puisse relever
les
pensions minimum.
Oui, non. Est-ce que l'âge de 64 ans est négociable, oui ou non ?
Je viens de vous répondre que si nous ne faisons pas 64 ans, nous n'équilibrons pas le système.
Et est-ce que dans votre tête bien faite, quand même, Emmanuel, il n'y a pas, depuis hier, peut-être un peu plus de questionnements ? Sont-ils capables de céder ou pourraient-ils céder par la force des choses sur les 64 ans,
finalement ? Oui, mais céder sur les 64 ans, ça revient à retirer la réforme, finalement. Donc,
c'est un désaveu total.
Donc voilà. Après, c'est vrai que le problème, c'est qu'aujourd'hui, financièrement, les marges, elles sont extrêmement limitées. Bon, si on reprend les grands termes de l'équation, sans réforme, 13 milliards de déficit en 2030. Avec la réforme qui rapporte à peu près presque 18 milliards d'euros, vous repassez en excédent. Sauf que ça vous fait 5 milliards d'excédent. Sauf que les 5 milliards d'excédent, ils ont déjà été mangés par finalement la plupart des mesures sociales qui ont été prises déjà jusqu'à maintenant. Donc là, ça y est, 2030, vous êtes à zéro et on a même été sollicité finalement la sécurité sociale et la branche accident du travail qui était excédentaire. Donc là, vous êtes à zéro. Alors, négocier sur quoi ? Il y a des amendements qui sont effectivement parmi les amendements les plus importants là qui sont discutés. Il y a celui du Modem sur donner 2 trimestres de plus aux femmes qui ont un enfant. Et il y a effectivement faire que personne, comme ça avait été dit initialement par Elisabeth Borne avant qu'on ça se prenne un peu les pieds dans le tapis, ne cotisera 44 ans. Si vous cumulez tout ça, vous êtes à 6 milliards d'euros, par exemple, de coûts. Donc vous voyez bien que financièrement, il n'y a pas grand-chose à gratter. Donc ça va être extrêmement, extrêmement compliqué. Sur la pénibilité, moi, je ne vois aucune raison pour que ça change. Enfin, je veux dire, ça fait 20 ans que ce dossier n'avance pas. Bon. On l'aborde avec une approche totalement 19e siècle.
Mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces fameux débats qui arrivent au Parlement ?
D'après Bruno Grandjean, des milliards en plus apparemment de compensation, hein, c'est ça.
Oui, je sais pas trop ce qui va ressortir. Il y a une sorte de montée aux extrêmes là. Chacun se raidit, se bloque. Il y a un clash clair. Et c'est vraiment une occasion ratée de parler de capitalisation, de réformer les régimes sociaux. La plupart des gens, enfin une grande partie des gens qui sont dans la rue, ne sont pas touchés par la réforme du fait de la clause du grand-père. Donc on aurait peut-être pu commencer par ça, ça aurait été sans doute plus efficace. Et puis ce qu'il faut dire, je crois, le président a commencé à le dire, hein, que tous les Européens avaient fait ce genre de réforme, c'est que nous avons une monnaie commune. Ce problème du déficit, les 3 000 milliards, qui est spécifique à la France et à l'Italie, nous impose cette réforme. C'est une forme de Frexit de refuser la réforme, de refuser de s'adapter. À ce moment-là, il faut sortir de l'euro. D'ailleurs, c'est sans doute pas la France qui sortira de l'euro. À un moment, c'est l'Allemagne.
C'est ce que vous me disiez, j'ai quelques mois. C'était une phrase que vous aviez prononcée, qui nous avait marqué, Bruno.
Ils vont sortir officiellement. Mais ils vont dire, on arrête les frais. On ne veut plus avoir le même chéquier. Il y aura un euro allemand, il y aura un euro latin. Enfin, on va finir par un clash de ce niveau-là. Ça sera lors de la prochaine crise financière, la Grèce, le rôle de la Grèce sera tenu par la France ou l'Italie. Donc, cette réforme, il faut la placer à ce niveau-là. La France ne travaille pas assez. Après, on peut discuter des modalités, mais je crois qu'il faut le placer à ce niveau-là. Et c'est ça qui n'est pas fait par le gouvernement. 3 000 milliards d'euros de dette. L'argent magique n'existe pas. On est protégé par l'euro. Mais en fait, on a un problème structurel profond. Donc ça, ce n'est pas dit, et je crois que c'est un peu le
Bruno Coquet, alors je le dis, on n'était pas d'accord lors de votre dernière présence sur ce plateau sur le fait que cette réforme a l'oubli les femmes, et finalement, vous avez changé d'avis.
Ah oui, non, mais je suis d'accord, tout le monde a bien montré qu'il y avait un souci avec les femmes, voilà, la prise en compte de leur trimestre. J'avais quand même dit, il faut toujours regarder le décret, hein, parce que ouais. Le mot nonobstant s'emploie à toutes les sauces dans les décrets, et puis il y a des plafonds, voilà, dans la limite 2, etc. Donc, mais c'est vrai, donc on a un sujet femme, c'est pas le seul sujet.
Vous achetez le discours alarmiste de Bruno, là, à l'instant, là, de Bruno Grandjean, ou pas?
Après, Sur la dette et les oui. déficits publics, je suis totalement d'accord. Après ça, si on regarde juste la réforme des retraites, on ne va pas la refaire tout de suite. Pour réfléchir, on aurait pu avoir une tentative provocatrice, qui est de dire on met la retraite à 60 ans pour tout le monde. On met un nombre de trimestres de cotisation. Moi, je pense que cette réforme, c'est le problème n'est pas la borne d'âge, mais plutôt le nombre de trimestres cotisés. Mmh. Et donc, du coup, et après, traiter les décotes. Bon, ça demandait du travail, c'était un substitut de la réforme.
Et puis, ça a ramené de l'argent moins rapidement. Le sujet, il est là, Bruno.
Ça, je sais pas, ça dépend des
non,
modalités.
Non, parce que justement, ça permettait une souplesse qui était un peu la souplesse qui était fournie par le système à points, justement, qui était en gros cette liberté. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui coince quand vous regardez, parce que j'entends l'argument de dans les pays étrangers, l'âge théorique de départ est bien plus élevé, sauf qu'il n'y a pas un pays où il y a de façon aussi contraignante la borne des 64 ans.
Ouais, les deux,
il y a beaucoup de pays où la retraite, effectivement, c'est officiellement 67 ans, mais souvent avec une durée de cotisation qui est moindre que chez nous, etc.
Et
donc, effectivement, je pense que la bonne variable, c'est la durée de cotisation, et qu'il faut laisser aux gens la possibilité, leur donner une forme de liberté. Bah oui, vous voulez partir plus tôt, quitte à avoir une retraite inférieure, c'est votre choix personnel, mais au moins vous pouvez l'exercer à partir de 62
ans. Abandonnons les 62 ans et accélérant encore la loi Touraine, je sais pas. Est-ce que ça peut être une porte de sortie?
Moi, je crois que maintenant, c'est pratiquement plié, parce que le gouvernement s'est raidi sur le sujet, les 64 ans sont devenus un totem. Et donc, aujourd'hui, quelle sortie de crise, je sais pas trop, ça risque de finir comme les réformes, c'était le CPE, je crois. Hein, c'était comment ça s'appelait?
Oui, c'est ça.
CPE,
oui,
on a été
le CPE,
ouais.
On a été jusqu'à le voter. Hein.
Oui, il a été voté,
et après,
mais
ça n'a pas été.
Il y a eu un tour
après,
de passe-passe.
Ouais. Sur les régimes spéciaux, il y a quelque chose à dire. Hein. Ici, on mise tout sur la solidarité intergénérationnelle. Le point, c'est qu'il y a une solidarité interprofessionnelle. Et qu'il y a des choses qui sont audibles, la pénibilité, les femmes, les carrières longues. Tout ça, c'est. Que ça concerne toutes les professions, régimes spéciaux ou pas, et donc tout ça devrait pouvoir converger, et après, s'il y a des régimes spéciaux qui veulent des droits supplémentaires, on peut le traiter par les retraites complémentaires, mais le droit commun doit être le même pour tous.
Allez, au Laker, et puis on suivra bien sûr les prochaines journées de mobilisation, les 7 et 11, hein, voilà, soyez prévenus.
Et oui, dont un samedi.
Dont un samedi, en l'occurrence. Merci messieurs d'être venus ce soir, Bruno Grandjean, merci beaucoup Bruno, président de Redex, ancien président de la Fédération des Industries Mécaniques, Bruno Coquet, docteur en économie, chercheur associé à l'OFCE, Emmanuel Lechypre pour BFM Business. Merci messieurs, à très vite avec grand plaisir sur BFM Business, 18h57.
On se quitte un court instant. Alors, si vous souhaitez revoir une partie de ce débat, c'est à retrouver sur bfmbusiness.fr ou en replay, ça s'affiche sur vos écrans.
La fête qui parle dans une heure. On va aller voir Sabrina Quagliozzi pour prendre la température du côté de New York. On viendra un petit peu sur les déclarations d'Ursula von der Leyen. Et puis, on parlera dans un quart d'heure du salon rétromobile. Bah oui, c'est aujourd'hui du côté de la porte de Versailles. Belle voiture, vous allez voir ça.
Mais oui, ça avec des vrais moteurs.
Ouais. Moteur
génial. Voilà.
Il en reste encore. Ils sont moins chers, c'est ça le problème.
Il y a plein d'invités qui, quand ils sortent du plateau, vont à Rétromobile et ont des étoiles dans les yeux.
Et ben, c'est très bien. Et puis le patron de Newen, hein, Xavier Barbaro, à 19h30. Voilà le programme. On est ensemble jusqu'à 20h.
À tout de suite.